France Culture. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard, Sacha Mattei, Gwendoline Troiano et Antoinette Benoît. Réalisé par Cassandre Puel et à la technique ce matin, c'est Grégory Wallon. Après une course de plusieurs milliers de kilomètres et juste avant de rejoindre les mers, les grands fleuves se divisent en plusieurs bras qui s'étendent dans les plaines, les deltas. Une géographie sensible, c'est le thème de notre dernière semaine de l'année avant la grille d'été sur France Culture. Nous explorerons quatre deltas particulièrement remarquables et vulnérables. Demain, le delta du Nil. Mercredi, celui du Niger. Jeudi, celui du Mékong. Aujourd'hui, le delta du Danube, à cheval entre Roumanie et Ukraine, est transformé par la guerre.
La guerre est un désastre pour le delta du Danube. Les touristes ont la trouille de venir. Ils savent que la guerre est à 200 mètres à peine en bateau. C'est normal qu'ils aient peur.
Le delta du Danube et toute la Bessarabie ont prouvé qu'ils étaient incontournables pour que nous poursuivions nos échanges commerciaux. Surtout quand les ports d'Odessa ont été bloqués. Les ports du Danube sont cruciaux pour l'Ukraine.
La guerre est à notre porte et l'Ukraine a besoin d'exporter par le Danube, mais la Roumanie ne doit pas oublier qu'il faut maintenir des politiques concrètes pour préserver la biosphère du Delta. Nous devons trouver un juste milieu entre la préservation de la biodiversité et le contexte géopolitique actuel.
C'est un enchevêtrement de canaux, d'étangs et d'îlots. On y voit des pélicans, des esturgeons, des barques et des zones humides de la taille de l'Ardèche. C'est l'aboutissement d'un des plus grands fleuves d'Europe qui se jette là, dans la mer Noire. Le delta du Danube, région à cheval entre l'Ukraine et la Roumanie, est un lieu mouvant. Le Danube s'y perd en effet en des milliers de bras qui se forment et se déforment au gré des marées, des bacs de sable et des murailles de roseaux, m'a expliqué Barthélémy Gaillard, qui m'a aidé à préparer cette émission. C'est lui qui le décrit comme ça. Une géographie en perpétuelle évolution, façonnée par la nature, mais aussi par les hommes et par les guerres qu'ils se sont livrés pour ce territoire, tantôt roumain, tantôt russe, tantôt ottoman. Pour cette région des confins, l'invasion russe de l'Ukraine de février 2022 a tout changé. Jusqu'ici cantonnée à une économie modeste, à l'écart des principaux circuits commerciaux, elle est devenue, après le blocus des principaux ports ukrainiens, un circuit alternatif essentiel pour l'exportation des céréales, un canal commercial indispensable à l'effort de guerre. Les ports de la région, ukrainiens et roumains, ont dès lors investi pour accueillir davantage de flux dans des navires plus gros et des silos construits à la hâte. Bonjour Ivan Savchuk, merci. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheur associé au laboratoire Géographicité. Vous avez écrit un article sur la question qui va nous préoccuper aujourd'hui, les ports ukrainiens du Danube et l'impact de la guerre, paru dans la revue Géotransport l'année dernière. Bonjour Sophie Lambroschini.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Vous êtes géographe, chercheuse engagée dans le projet. Vous êtes chercheuse engagée dans le projet Exil-Est et membre de l'ISP, qui est l'Institut des sciences du politique de l'Université Nanterre. Vous avez écrit Ukrainien au pluriel aux éditions Atelier Henri Dougier, qui a été réédité en 2022, mais qui avait paru une première fois en 2014, année de votre premier séjour de recherche dans le delta du Danube. D'abord, est-ce que vous vous rappelez, vous êtes très vite repéré dans cette région? Est-ce que le delta du Danube est lisible quand on l'explore pour la première fois?
Alors, effectivement, j'y suis allée pour la première fois en 2014, dans le delta du Danube. Et à l'époque, on avait vraiment cette impression d'arriver quelque part au bout du monde. Oui. Donc, j'arrivais de Kiev en 4x4, jusqu'à dans la région d'Odessa, pas de problème. On pouvait circuler normalement sur les routes. Et puis, une fois passé une route de transit à travers la Moldavie, parce qu'il faut passer par là pour accéder dans cette région du delta du Danube qui s'appelle aussi le Boudjak.
Qu'est-ce que ça veut dire Boudjak en ukrainien?
Alors, c'est en fait c'est un mot issu du turc ottoman. Et qui veut dire quelque chose comme coin. Alors, je crois qu'il y a des débats sur l'étymologie, mais qui donne vraiment une bonne idée, en tout cas, qui est le reflet géographique de cette région.
Un
qui
coin
est
du monde.
D'un écrin agricole, foisonnant, comme vous l'avez très bien décrit dans votre introduction, d'îlots qui se perdent, qui se reforment au gré des mouvements de l'eau. Et donc, lorsqu'on arrivait dans cette région, eh bien, il n'y avait presque plus de route. Pour faire 50 kilomètres, il fallait 3-4 heures. On roulait plus facilement sur les champs que sur la route, tellement cette région était inaccessible, et on parle de 2014, c'était pas si loin. Et donc, pour accéder justement à ces régions de pêcheurs, ces villages de pêcheurs, qui étaient les seuls à pouvoir guider les touristes qui voulaient visiter ces villages, des villages d'ailleurs avec des minorités ethniques dans toute la région, d'ailleurs pas uniquement dans cette région vraiment au cœur du delta de l'eau, mais dans toute la région, des minorités ethniques qui ont gardé leur village, avec, on y parle bulgare dans certains villages, roumain dans d'autres. Il y a des villages en fait avec les descendants des vieux croyants qui s'étaient réfugiés dans ces zones aux confins.
Qui sont les vieux croyants? Est-ce qu'on peut en dire un mot, Ivan Savchuk, de ce qu'on appelle la communauté des vieux croyants, et parler de ceux qui vivent et celles qui vivent dans ce delta, qui n'est pas, comme le disait Sophie Lambroschini, quelque chose de donné à tout le monde, de réussir à s'y repérer, et seuls les locaux connaissent vraiment les méandres du delta, ces voies mouvantes qu'ils maîtrisent et qu'ils connaissent. Donc la communauté des vieux croyants, par exemple, qui sont-ils?
Oui, ils s'appellent les Povans. C'est le vieux, c'est origine russe ethnique, qui sont réfugiés à l'époque de, quand le régime ottoman a été contrôlé cette zone-là, contre les représailles du régime tsariste. Et ils ont conservé jusqu'à aujourd'hui toutes ces traditions, son rite particulier avec les chants à format très ancien qui n'hésitent plus en Russie. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils sont bien implantés dans cet écosystème. C'est les pêcheurs qui, même ont droit de pêcher traditionnellement avec le petit barque dans les deltas du Danube. Les harengs, ils sont très connus partout en Ukraine comme le meilleur hareng de l'Ukraine.
C'est les harengs sourds qui sont
oui,
dans les marais.
Si. Donc, et aussi, ils sont très célèbres parce qu'ils sont très bien implantés dans les cultures du sel. Et les fraises, la première fraise de l'Ukraine, c'est la fraise de cette zone-là. Il y a aussi le vin. Reconnu en Ukraine.
Le quoi, pardon? Le vin
qui est produit dans cette zone-là. Et donc, c'est aussi intéressant, cette cohabitation avec la nature, adaptation, ce qui permet de conserver jusqu'à aujourd'hui toutes les valeurs environnementales et culturelles, des richesses culturelles de cette région-là, à écart du grand trou avant de cette grande guerre qui provoquait la Russie, le bouleversement radical de cette zone-là.
Sophie Lambroschini, vous les avez rencontrés, d'ailleurs, ces vieux croyants, ces orthodoxes russes qui ont fui au XVe siècle suite à des réformes de l'Église. Vous avez aussi rencontré des Cosaques, je crois. En tout cas, ce sont des communautés qui vivent dans cette région. Est-ce qu'ils se mélangent à la population ukrainienne ou pas? Et d'ailleurs, est-ce que les infrastructures permettent aux populations de se mélanger?
Oui, alors, je pense que ce qu'il faut rappeler, justement, ce qui est intéressant par rapport à ces populations installées là-bas depuis plusieurs centaines d'années, c'est que ça marque le delta du Danube comme une région de repli, d'échappatoire pour des populations qui étaient en opposition au pouvoir impérial. À nouveau, comme je disais, il y a les îlots du Danube, et donc où ces populations la vivent, qui se mélangent entre-temps avec d'autres populations, bien évidemment, qui ont des relations économiques historique et autres avec les autres. Ça fait partie de l'Ukraine, donc ils sont pas dans un isolement socio-économique total, pas du tout. Et puis surtout, dès qu'on remonte un petit peu le Danube, là on a des villages qui sont des villages agricoles sur la terre ferme, donc où on a toujours ces grandes cultures de fruits et de légumes qu'évoquait Ivan, pour laquelle la région est connue, y compris des cultures céréalières et de vin, mais aussi une région qui, du fait de son isolement, comme je disais, en coin, donc avec la Moldavie au nord, le Danube, frontière de l'OTAN et de l'Union européenne, oui, à l'ouest, parce qu'il faut le rappeler, hein, qu'on est vraiment dans un coin.
Une frontière orientale de l'Union européenne.
Et cette quasi exclave, finalement, avec cette petite route, surtout maintenant depuis que la voie sur digue de la Berne Noire a été détruite, donc vraiment dans cette situation un petit peu d'exclave, et donc une poche qui prend donc qui absorbe de plein fouet beaucoup d'effets de la guerre, donc à la fois sociaux et économiques, dont je crois nous allons parler maintenant.
Le bruit de la guerre qui tonne au loin, mais vraiment au loin, et qui n'empêche pas, pour essayer d'explorer quand même encore un petit peu avec vous ce delta, le donner à voir, ça n'empêche pas des habitants de se promener sur l'eau avec parfois un petit appareil d'enregistrement. Ce musicien, par exemple, Alex, qui parcourt et qui sillonne les canaux pour enregistrer les grenouilles.
J'entends les roseaux, les oiseaux, les grenouilles, le clapotis de l'eau, et j'entends même un moteur qui vrombit quelque part. Je ne sais pas exactement quel son je veux entendre, mais ça m'inspire. Ce sont des sons qui peuvent s'intégrer dans mes rythmes, comme des grenouilles qui coassent à l'unisson. Je ne veux pas faire trop avant-gardiste, mais on peut intégrer quelques éléments.
La dernière semaine de Culture Monde avant la grille d'été, on peut bien entendre quelques sons ou quelques personnages, disons, un peu plus farfelus que d'habitude. Ce musicien Alex qui enregistre les grenouilles pour sa musique et qui veut pas être trop avant-gardiste, rencontré par l'équipe d'Histoire d'eau sur la chaîne YouTube Minerva Alonis en février 2024. Donc déjà, la guerre avait éclaté et depuis longtemps déjà. Et ce jeune homme continue à sillonner les canaux. Historiquement, vous nous disiez tout à l'heure, Ivan Savchuk, que les populations vivent de la pêche. Alors vous nous parliez des harengs, mais l'esturgeon aussi est un poisson qu'on pêche beaucoup. Des activités maraîchères, vous nous parliez des fraises, il y a aussi la framboise. Peut-être un mot sur la période soviétique, comment s'organisait l'agriculture à l'époque? Est-ce que les habitants du Delta étaient eux aussi organisés en kolkhoz?
Oui, merci. Pour le Delta, le plus grand projet qui bouleversait radicalement cet écosystème, c'est l'introduction des rhizocultures dans le cadre du grand projet soviétique. Parce qu'en années 80, il a réalisé pas mal du système d'irrigation. Et maintenant, après la destruction du dam du Kakhovka, c'est l'unique région qui produit le riz en Ukraine. C'est aussi important pour les populations locaux parce que c'est l'unique possibilité de faire en mise en valeur la fertilité de cette terre maraîchère pour les grands projets. À l'époque soviétique, c'est plutôt les sovkhoz, c'est pas les kolkhoz, c'est les propriétés d'État qui est implanté là-bas parce qu'il faut une mise toute cette activité pour l'irrigation parce qu'à l'époque soviétique, il a un gigantesque projet de construire un nouvel canal qui liait Danube avec le Dniepr. Donc, on a mis toute cette activité. Après, avec la perestroïque, avec les mises en question écologiques qui peuvent détruire toute cette delta, ce projet a été abandonné. Mais quand même, on reste cet énorme réseau irrigué. L'autre question assez importante pour cette zone-là, qu'avec l'introduction de circulation des grands bateaux de ferry à l'époque soviétique, c'est transformé radicalement la vie, on peut dire, du pêcheur assez loin du confine de la frontière, qui est bouleversé radicalement parce qu'on a implanté une nouvelle porte Ouzdounaïsk avec le ferry qui à l'époque soviétique tentait de rivaliser avec les conteneurs. Et ça a créé aussi les grands changements dans la vie de cette zone-là. Puis à l'époque des dépendances, tous ces grands projets sont presque abandonnés. Et ce qui crée des possibilités de restaurer les natures et les balances écologiques. Voilà. C'est moi qui ai bouleversé par l'approfondissement du canal qui est lié du côté ukrainien avec l'entrée jusqu'à Ismaïl pour les bateaux du
port d'Ismaïl. Le port d'Ismaïl, c'est difficile de se représenter toujours la géographie d'un delta, comme vous le disiez l'un et l'autre. Cette géographie est mouvante, il y a plusieurs bras. Ismaïl est plus dans les terres, si je puis dire. C'est au bord du fleuve, bien sûr, mais beaucoup moins près de la mer Noire. Alors, il y a trois ports fluviaux dans la région qui, jusqu'ici, étaient de taille, disons, modeste, Sophie Lambroschini, qui sont retrouvés au cœur des flux d'importation et d'exportation de l'Ukraine quand, après qu'elle eut envahi le pays en février 2022, la Russie a imposé un blocus sur la mer Noire et bombardé les ports en eau profonde de l'agglomération d'Odessa, donc à quelques 170 km au nord de là où le Danube se jette dans la mer. Comment les ports du Delta ont-ils d'abord encaisser, entre guillemets, Sophie Lambroschini, cette redirection des marchandises?
Je suis allée observer ces ports, le fonctionnement de ces ports à Ismaïl à l'été 2022. Et donc c'était juste moins de 6 mois après le début de l'invasion à grande échelle par la Russie. Et déjà, le port que j'ai visité, qui était en fait un chantier naval à l'origine, situé à Ismaïl, était déjà en pleine transformation, était déjà en mesure de charger et d'exporter des céréales et de recueillir des barges avec des produits arrivés par la route ou par la mer Noire depuis la Roumanie. Cette mobilisation était à la fois infrastructurelle, donc il fallait trouver un moyen de transformer des ports fluviaux qui étaient un petit peu endormis depuis des décennies soviétiques et aussi arriver à répondre à ces besoins et ces demandes d'exportation dont on a beaucoup parlé, notamment à l'époque, cette première année de guerre, comment exporter les céréales ukrainiennes. Et donc, j'ai vu au cours d'un an se transformer ce port, donc avec donc un problème par exemple de manque de main d'œuvre, puisque c'était un chantier naval, il manquait de main d'œuvre pour fonctionner comme port. Il a fallu recruter alors que les hommes étaient recrutés eux-mêmes pour la guerre, donc une transformation de la main d'œuvre, plus de femmes qui sont entrées dans ces métiers portuaires qui étaient très nouveaux pour l'époque, petit à petit, des recrutements qui se faisaient jusque dans les territoires occupés où un homme qui était opérateur de grues flottantes qui a été recruté secrètement des territoires occupés, à qui on a proposé de s'échapper parce que ce sont des spécialités très très rares qui requièrent une expertise énorme. Et donc juste tout ça pour dire, ce sont des exemples pour dire à quel point il s'agissait de mobiliser pas uniquement les capitaux, parce que là aussi c'était compliqué et important, les voies de logistique qui permettaient donc de traverser cette région, que je pense que Ivan va nous en parler beaucoup plus, mais aussi cette mobilisation humaine et d'expertise et de savoir-faire qu'il a fallu recueillir un petit peu partout. Et donc ce chantier naval, qui n'est plus un chantier naval, mais un port d'exportation, est maintenant dirigé entre autres par des femmes, avec des opérateurs et des dockers arrivés de partout, qui se sont aussi modernisés pour s'adapter aux normes européennes, pour apprendre les règles douanières européennes. Donc massivement, on voit à nouveau comment les infrastructures se sont adaptées et à quel point le facteur humain a joué un rôle dans tout ça.
Donc vous avez vraiment vu se transformer à la fois les ports du Danube, de ce delta du Danube, mais aussi les villes qui accueillent ces ports. Alors pour bien comprendre, Ivan Savchuk, d'où viennent les marchandises ukrainiennes? Comment sont-elles acheminées jusqu'à ces ports avant d'entamer leur longue route d'exportation sur le Danube? Et comment la guerre aussi a modifié tout ça?
Il faut dire qu'avant la guerre, c'est seulement l'autoroute qui alimentait parce que la ligne ferroviaire était transfrontalière qui inactivait 25 années à la cause des querelles entre deux chemins de fer pour la division des biens issus de l'époque soviétique. C'est seulement pendant cette guerre généralisée qu'on a pris d'accord avec le soutien de l'Union européenne, de la Commission européenne, pour mise en valeur cette ligne du chemin de fer. On a reconstruit un tronçon qui connectait le réseau ferroviaire du Transdanube avec le réseau moldavien.
Ça depuis le début de la guerre, oui, on a remis en service cette ligne ferroviaire.
Oui, tout ça parce qu'une des premières frappes russes, c'était de détruire le pont ferroviaire et autoroutier qui connectait le réseau ferroviaire et autoroutier du Transdanube avec les régions de Dessa. Et ce qui créait une isolation presque totale. Donc, en urgence de réactiver toute cette activité sur cette ligne du chemin de fer transfrontalière, ce qui permet d'exploser à 10 fois plus le trafic via cette porte-là. Et donc, c'est la première fois dans son histoire, Izmaïl est devenu le porte-phare du trafic en Ukraine. Et c'est plus de 10 millions de tonnes, c'est le maximum de capacité avant tout du chemin de fer. Mmh. Parce qu'avec unique autoroute qui est alimentée de cette céréale qui récoltée par chemin de fer de ça, parce que c'est créé énorme problème de circulation à la cause que Transnistrie, le régime autoproclamé, contrôle les tronçons importants du chemin de fer.
Oui, la ligne ferroviaire, elle part du grenier à blé ukrainien et elle passe par la Moldavie, mais plus particulièrement la Transnistrie, qui est un territoire séparatiste proche de la Russie, donc nécessairement en pleine guerre menée par la Russie en Ukraine, c'est compliqué. C'est ça que vous voulez dire?
Oui, il faut dire que maintenant, après l'éclatement des guerres généralisées, on a mis un nouvel projet avec les chemins de fer moldaviens, avec le soutien du Banque européenne de reconstruction, de réhabiliter les autres lignes ferroviaires qui connectaient le territoire ukrainien avec via le territoire moldavien pour éviter cette tronçon-là qui est devenue si vitale dans plein guerre.
Oui, donc il fallait l'éviter, il ne passe plus. Sophie Lombroschini.
Oui, donc je voulais rebondir sur ce que disait Ivan en décrivant donc la transformation de la logistique pour parler un petit peu de l'effet sur la ville d'Izmaïl de cet effet de la guerre. Donc d'abord pour préciser que donc la ville d'Izmaïl qui comptait 70 000 habitants même moins avant février 2022 a été comme beaucoup de villes frontalière occidentale en Ukraine, la destination de beaucoup de déplacés, soit des personnes, des Ukrainiens qui fuyaient la guerre à l'Est et qui sont restés à Izmaïl, ou alors qui ont traversé le Danube pour aller ensuite s'installer ou se réfugier en Union européenne. La population d'Izmaïl a gonflé, a augmenté. Alors, on n'a pas de chiffres vraiment détaillés pour la ville, mais d'à peu près 20% ou 25%. Et donc, en fait, l'effet conjoint de la transformation logistique et humaine et migratoire pour la région a mis sous pression aussi tous les systèmes de services publics, le système hospitalier, les écoles, où tout d'un coup il y a un afflux d'enfants, d'électricité, d'eau, parce qu'il y a beaucoup d'eau partout, mais ça ne veut pas dire qu'en fait l'eau centralisée arrive vraiment urbaine, arrive partout. Donc toutes ces transformations ont un coût pour le fonctionnement de la ville qui elle a des aspects de ville russe impériale. On voit rien vraiment de l'époque ottomane, quelques bâtiments de l'époque roumaine aussi, mais surtout on a cette impression d'une ville qui vit autour de ce petit port avec une classe moyenne qui on m'a dit on peut pas le mesurer vraiment de manière statistique, mais en parlant aux personnes sur place, il y a une espèce de classe moyenne qui est émergée autour de cette marine marchande parce que les salaires sont excellents comparés aux salaires moyens ukrainiens.
Donc ça s'est fait
vraiment
très
vite. Ce sont des personnes qui peuvent partir et revenir librement, c'est que les hommes marins ont un droit que la plupart des hommes ukrainiens de l'âge à 18 à 60 ans n'ont pas, c'est-à-dire le droit de quitter leur pays, et donc en même temps des inégalités qui peut-être se creusent avec des populations locales qui souffrent donc de des inégalités face à la guerre, face à la crise économique.
Et une ville qui s'est donc très vite développée, ce qui n'a pas été sans créer de gros embouteillages à Izmaïl.
Les ports sont fermés à cause des frappes de missiles. C'est pourquoi tout le monde vient ici, de toute l'Ukraine pratiquement. Nous passons la journée à parler à ceux que nous n'avons pas vus depuis longtemps. Parce que lorsque nous rentrons à la maison, nous allons voir nos familles et nous ne nous voyons pas. Et ici, nous nous réunissons en groupe. Nous parlons, nous allons boire un café. C'est comme ça qu'on passe la journée, dans le camion ou en regardant TikTok.
Avec la file d'attente, toutes les voitures attendent un appel pour se rendre au port. J'attends à laisser passer. J'ai fourni mes données, ils m'ont dit d'attendre. C'est tout. J'attends. Si on m'appelle, j'irai directement au port. Pour l'instant, nous restons ici pour ne pas encombrer l'infrastructure d'Izmaïl. Car il y a tellement de voitures que les rues sont encombrées. Tout est encombré.
Alors, la ville et le port d'Izmaïl ont multiplié par 10 le trafic entre 2022 et 2023 pour atteindre 20 millions de tonnes. Alors, je crois que ça a un petit peu rediminué depuis Ivan Savchuk. Il a fallu donc recréer des quais, des barges, des silos. Qui a financé ça? Est-ce qu'il y a eu une aide européenne en la matière? Est-ce que l'Ukraine, le gouvernement central, a décidé de mettre beaucoup de moyens là-dedans? Comment ça s'est reconfiguré et avec l'aide de qui?
L'État ukrainien s'est financé, cofinancé avec la Banque européenne, la reconstruction de cette ligne transfrontalière et reconstruction des tronçons qui connectent avec le réseau transdanubien. Puis, c'est avant tout ces investissements privés. Le cas plus frappant, c'est la construction du plus grand complexe céréalière qui s'appelle filière Bessarabiaska, qui créait l'agricole d'Inknibolon, le premier exportateur ukrainien de céréales, qui a réinstallé, créé cette nouvelle installation dans le port d'Izmaïl, ce qui permet d'envoyer les cargaisons de céréales du Mykolaïv, qui était avant la guerre le premier port céréalier, où était implanté la plus grande capacité des silos de cette agricole d'Inknibolon. Il y en a, grâce à un crédit du Banque européenne, il a réussi pendant une année seulement de construire un nouvel grand complexe céréalier pour 100 000 tonnes simultanées de capacité. Donc, ça permet jusqu'à aujourd'hui de conserver le grand exportation de céréales via Danube, qui réalisait cette agri-holding. Mm. Et quand la guerre, dans cette l'année dernière, quand la situation de circulation maritime dans les zones du mer Noir contrôlée par l'armée ukrainienne était bien stabilisée, les grands ports d'Odessa ont commencé à repousser, à retourner en position préférant, ce qui créait le changement inattendu dans les trois ports du Danube. Mais il faut préciser que parmi ces trois ports du Danube, il y a le Ouzdounaïsk, dans la ville Kovo, qui est le premier port privatisé. Et maintenant, il y a un grand projet de construire le plus grand hub de circulation, avant tout des fertilisateurs ingrats. Dans c'est jusqu'à début de ce delta du Danube, ce qui a créé déjà beaucoup de questions environnementales. Parce que comment on peut créer un nouvel hub pour les transportations d'ingrats et de fertilisateurs? Il y a besoin d'énormes investissements, avant tout dans le système de conservation et de circulation de ces produits chimiques.
Créer un hub, c'est ça?
Non, oui,
c'est
pas parce que la société Agrokoldin, qui a privatisé cette Ouzdounaïsk, a déclaré officiellement qu'il veut créer un hub avant tout de ces fertilisateurs pour ces sociétés qui ont les terres contrôlées à l'Ukraine centrale. Mmh. Ce n'est pas à côté voisin, donc ce n'est pas des régions du Transdanubie.
Sophie Lambroschini, et peut-être juste aussi un mot que vous employez souvent, c'est Bessarabie. Alors, je ne connaissais absolument pas cette région, la Bessarabie. Comment on la situe? C'est un petit coin du delta du Danube ou au contraire, c'est plus large, Sophie Lambroschini?
Non, en fait, c'est plus large. Peut-être que les auditeurs arriveront même, du coup, à situer. Donc, la Bessarabie, correspond à peu près à la région actuelle de la Moldavie et en débordant bien sûr des frontières, hein, parce qu'on parle là, on a des frontières nationales. Alors qu'on parle de régions historiques qui, bien sûr, sont beaucoup plus diffuses. Mais donc, cette région du Boudjak et du delta du Danube se situe dans la région du sud de la Bessarabie, si on veut. Donc, voilà.
Et vous lui ajoutez quelque chose sur ces ports, donc trois ports ukrainiens du Danube, il y a Reni, Izmail et Ust-Dunajsk, dont Ivan Savchuk nous rappelait qu'il était aujourd'hui largement privatisé. Est-ce que c'est vraiment la guerre qui a accéléré un processus qui était déjà en cours? Comment est vécue cette privatisation d'un port du delta du Danube?
Je pense qu'en partie, effectivement, la guerre a accéléré des processus de privatisation ou de prise de contrôle, parce que ça peut être des privatisations directes ou de tout simplement de prise de contrôle, puisque la recherche, c'est l'efficacité et c'est le résultat. Et donc ces processus ont des effets positifs en partie, c'est-à-dire de faire face à la aux effets de la guerre et donc d'arriver à exporter les engrais par exemple, mais effectivement aussi avec des effets négatifs, donc où par exemple localement à Izmail, je n'étais pas à Ust-Dunajsk mais à Izmail, où la communauté journalistique d'investigation se pose et pose énormément de questions sur le coût écologique de la levée des contrôles et de régulation des normes écologiques dans la région. Alors, bien sûr, ce problème existait déjà avant. Bien sûr, c'est un problème qui existe de manière transfrontalière. Mais c'est vrai qu'il y a des questions donc de priorisation qui se pose dans la guerre et qui reporte à plus tard un coût indirect qui est provoqué par l'agression russe. Donc on parle, comme l'avait dit Ivan, beaucoup de la catastrophe de Kakhovka et donc de l'impact écologique et économique de l'explosion de ce barrage sous contrôle russe, mais toutes les régions de la mer Noire sont affectées, et tous les systèmes fluviaux. Et je pense que après il y aura une petite intervention sur l'écologie du Danube, du delta du Danube.
Avec Véronique Mitroy, ce sera
notre focus. Mais en fait, tous les systèmes fluviaux ukrainiens sont affectés par la guerre et de différentes manières.
Les drones sont arrivés très lentement, avec un bourdonnement. Et après, il y a eu une explosion et des flammes. J'ai eu très peur. Je n'ai pas beaucoup dormi. Je suis fatigué, je suis furieux. Je ne sais pas si je vais rester ici pour continuer à travailler. J'ai peur.
Bien sûr que nous avons peur. Mais nous nous attendions à cette attaque. Reni avait déjà été attaqué. Alors ce n'était plus qu'une question de temps pour qu'Ismaël le soit à son tour. Ça s'est passé en pleine nuit, comme toujours. Nous avons entendu les alarmes de la défense aérienne, mais que voulez-vous ? Elles retentissent tous les jours.
Témoignage de Roumains qui vivent dans un village, le village d'Izakea, qui est à quelques encablures de la rive ukrainienne, mais d'où ils entendent la guerre sourdre. Ivan Savchuk, on a parlé des aménagements, des travaux, des chantiers qui ont été réalisés pour adapter les ports du Danube à cette nouvelle activité liée à la guerre et ces flux de marchandises qui se sont réorientés. Est-ce qu'ils se déroulent à peu près normalement malgré la guerre qui tonne au loin, ou la région est parfois visée directement par l'armée russe? Est-ce que les conséquences sont liées à des bombardements qui sont plus loin dans la région d'Odessa, ou parfois des bombes tombent vraiment dans le delta du Danube?
Oui, les Russes, pour les frapper, utilisaient les armes plus sophistiquées parce que c'est la zone limitrophe, et pour ne pas créer le chaos aux Belles, ils toujours utilisaient les drones plus sophistiques ou les missiles.
Pour ne pas toucher la Roumanie qui est membre de l'OTAN.
Oui, parce qu'il y a toujours les alertes en Roumanie. La dernière fois, quand les Russes ont réussi à détruire dans la partie ukrainienne, le ferry qui connectait Orlovka, ce village à côté d'Izmaïl, avec le ferry qui transmet les camions à côté roman de ce village
Isacha.
Isacha.
Ah, je l'ai mal prononcé.
Oui, Isacha. Il y a toujours énormes problèmes pour cette région-là parce que les Russes ont utilisé les armes avant l'exportation massive des céréales à début du septembre. Parce que pour alimenter tout ce grand commerce, il faut collecter dans les silos les quantités nécessaires de céréales pour comme ça d'avoir le frais plus rentable. Donc, les Russes ont toujours frappé cette infrastructure préparée pour collecter ce céréale. À début de cette campagne, c'est toujours soit à début de septembre, soit à la fin de l'année, car il y a les grands changements dans les circulations du commerce des céréales, parce qu'en Ukraine, il y a deux sommets d'exportation, c'est début d'automne et la fin de l'année. Quand il y a les divers types de céréales qu'elle arrive à la porte pour l'envoyer à le monde entier libre.
Sophie Lambroschini.
Oui, donc rebondis de nouveau sur ce qu'a dit Ivan et aussi votre petite audio là des Roumains du côté Isacha, donc du côté roumain du fleuve. J'étais à Izmaïl en fait la nuit où Izmaïl a été bombardé, donc c'était le 1er août, je crois, 2024. 23, j'ai un trou de mémoire, excusez-moi, mais voilà.
Et c'était donc, 2023.
2023, pardon. Voilà. Et donc effectivement, les silos étaient pleins et donc on a vu les bombardements avec des drones qui ont détruit une partie des installations portuaires, donc les bureaux, mais aussi qui avaient visé les grands silos, notamment les silos de Niboulon et des grandes holdings agroalimentaires, et donc qui sont vraiment partis en fumée avec des flammes partout. Et pour cette ville qui se croyait en sécurité à proximité de la frontière de l'OTAN, c'était un grand choc. Et le ferry qui relie donc Orlivka à Isacha, donc c'est tout près de d'Izmaïl. Il n'y avait pas du tout cette attente que les Russes oseraient faire ça, qu'il y aurait éventuellement donc des conséquences de toucher comme ça l'OTAN. Et ce ferry, c'est une petite barge où il y a la place pour un camion, deux camions. Et sinon, ce sont surtout les locaux. C'était le point frontière avait été ouvert en 2021. Après le Covid, pour permettre des circulations très très localisées. Tout ça rentrait un peu dans le cadre de l'intégration européenne de l'Ukraine et qui s'est retrouvé finalement à être un point névralgique de flux pour les populations et pour les marchandises.
Et donc pas adapté à ces premiers soubresauts de la guerre à ce moment-là.
Et compliqué de protéger.
Et compliqué à protéger. Alors peut-être une dernière question avant de retrouver notre invitée Véronika Mitroy pour en effet parler de l'environnement et de la protection de l'environnement sur le delta du Danube côté roumain. Si je comprends bien, la seule route encore fonctionnelle passe par l'intérieur des terres, donc la Moldavie avec le poste frontière de Palanca où la circulation est quand même très contrôlée. Est-ce que vous parliez l'un et l'autre tout à l'heure d'une zone, le delta du Danube, où viennent se réfugier historiquement des opposants, des dissidents? Est-ce que les déserts de l'armée ukrainienne, est-ce que certains viennent ici se réfugier? Ils savent qu'ils ne peuvent pas passer le poste frontière parce que de toute façon l'armée ukrainienne les empêchera de quitter le territoire. Est-ce qu'on sait, Ivan Savchuk, si des déserteurs ukrainiens aujourd'hui se sont réfugiés dans le delta du Danube?
Non, pas du tout, parce que cette zone depuis de l'époque soviétique est très surveillée. Ouais. Depuis de l'époque soviétique, elle a le grand système de contrôle qui même en a effectué à l'époque soviétique à réinstaller les villages proprement à la frontière, on a réinstallé à quelques kilomètres dedans du territoire national. Donc, et jusqu'à aujourd'hui, parce que cette communauté locale, ils connaissent eux-mêmes. Donc, quand arrive quelqu'un d'étranger, est très vite connu par les gens qui. Il faut comprendre les gens locaux. Ils sont toujours très accueillants pour les réfugiés, mais ils ont toujours peur quand arrive quelqu'un malin qui. Parce qu'après, il y a les problèmes avec leur cohabitation. Parce qu'ils sont déjà habitués à habiter à la frontière. Il a pris certaines cotes jamais inscrites, mais qui toujours respectent de tous les deux côtés, même si il fait avant la guerre leur petit commerce en boulant entre deux côtés. Maintenant, ils préféraient de rester en vigueur de loi, car ça permet de s'adapter et survivre les périodes difficiles pour tout le pays.
Petit bois près du Danube, un chant populaire ukrainien très très connu en Ukraine, un peu nostalgique, très doux. L'actrice Mila Jovovich, nous disiez-vous, Sophie Lambroschini, je pense même qu'on dit Jovovich puisqu'elle est d'origine ukrainienne, a tourné un clip sur cette chanson, on peut aller le voir, on le cherchera, on mettra le lien sur notre émission. Cette émission consacrée au delta du Danube transformé par la guerre en Ukraine, mais la plus grande partie du delta se trouve côté roumain, qui en contrôle je crois 80% à peu près, et qui tente aujourd'hui de réparer les dégâts environnementaux provoqués pendant la période communiste.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
So Radu, what is this?
This is the pumping station, the very thing they use to destroy the lakes.
Radu, qu'est-ce que c'est que ce bâtiment?
C'est une station de pompage, le gadget préféré de l'époque pour assécher les lacs. Le régime communiste voulait assécher les 200 lacs du coin, donc ils ont construit plein de stations de pompage. Ça a détruit les lacs et ça a privé les pêcheurs d'une ressource vitale pour eux. Venez voir le résultat.
Donc c'était là qu'étaient les lacs?
Oui, et c'est là que des cultures étaient censées être développées.
Ils ont asséché une surface immense. Quelle est la superficie de ce terrain?
Environ 33 000 hectares. 33 000 hectares et 200 lacs disparus.
Dans le delta du Danube côté roumain, les pêcheurs pâtissent encore de mesures prises pendant la période communiste, mais aussi, disent-ils, des normes environnementales et administratives imposées depuis pour rendre le canal à la nature. Bonjour Véronica Mitroy.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sociologue de l'environnement au CIRAD, qui est le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Vous avez consacré votre thèse au conservationnisme dans le delta du Danube. Quand est-ce qu'on commence à parler de conservation de la nature dans cette région, ou au moins de protection? Sous la période communiste, est-ce que l'activité économique se doublait de quelques préoccupations environnementales au moins?
Oui, effectivement, étant donné le caractère écologique tout à fait exceptionnel de cette région, des petites réserves naturelles ont été mises en place dans le delta déjà dans les années 30, puis dans les années 70, même pendant l'époque communiste. Mais il s'agissait des toutes petites surfaces, en fait, rien à voir avec ce qui va se passer après la chute du régime communiste. Quand on va donner donc le statut de réserve de la biosphère UNESCO à toute la région du Delta, qui représente à peu près 580 000 hectares, donc ce qui en fait de loin, de très loin, vraiment la plus grande zone humide d'un sol tenant du continent d'Europe.
Et une logique tout à fait différente de ce qui prévalait jusqu'alors, parce que même s'il y avait des petites zones de protection, c'était essentiellement une région dont les pouvoirs successifs, et surtout sous Ceausescu, ont voulu vraiment qu'il soit productif. C'était pour l'agriculture notamment. Il a même été question, je crois, d'assécher les marais pour en faire une vaste zone agricole. C'était surtout ça. Qui est-ce qui s'en occupait? La centrale du Danube, comment ça fonctionnait?
Oui, tout à fait. Pendant le régime communiste, le delta a été géré vraiment sur les principes de l'économie centralisée, planifiée, qui cherchait à faire du delta le grenier de l'Europe, qui est le rêve des régimes communistes à l'est de l'Europe. La région a été en fait assez faiblement collectivisée. Parce que tout simplement, il y a très peu de terres privées ou de terres cultivables, tout simplement. Mais toute la région du Delta sera placée sous le contrôle d'une administration dédiée qu'on appelait la centrale du Delta du Danube et qui mettra en place, surtout dans les années 80, ça va beaucoup aussi intensifier, une sorte de machine infernale de transformation massive des écosystèmes du Delta avec des objectifs productivistes très ambitieux. Ce qui fait qu'à la fin des années 89, donc à la chute du régime communiste, on a à peu près 5 000 hectares, qui représentent 15% du territoire, à peu près, qui étaient complètement déconnectés du circuit naturel de l'eau dans le delta. Et qui étaient utilisés donc comme pour l'aménagement des polders agricoles et piscicoles.
Et cette mesure prise par l'UNESCO de déclarer, de s'intéresser à cette région du Delta et sa protection et de déclarer le Delta du Danube réserve de biosphère, si j'ai bien compris, c'est suite à l'action d'anciens ingénieurs de la centrale du Danube qui, pendant l'époque communiste, soviétique, travaillaient dans le Delta et se sont dit qu'il fallait surtout ne pas faire n'importe quoi. C'est ça, ça vient d'en bas, entre guillemets. Enfin, ça vient du terrain.
Oui. Oui, tout à fait, puisque à la chute du régime communiste, effectivement, se posait la question qu'est-ce que va devenir à la fois cette entreprise étatique qu'il fallait démanteler, privatiser, en faire quelque chose, à la fois tous ces terrains qui ont été tout simplement créés et dont on ne savait pas non plus comment gérer, qui serait le propriétaire, etc. Et donc, effectivement, tout de suite à la chute du régime communiste, une demande officielle a été adressée par l'État roumain et soutenue par quelques fonctionnaires et chercheurs de la centrale du Delta du Danube pour avoir la reconnaissance en tant que patrimoine
réserve de
mondial de l'humanité. Et exactement. Et bien sûr, pendant les premières années, ça serait... l'UNESCO reconnaît tout de suite, en fait, étant donné l'importance écologique de la région, même si les conditions institutionnelles, on va dire, n'étaient pas accomplies. UNESCO reconnaîtra tout de suite l'importance écologique de la région et donc accompagnera l'État roumain et l'administration, la nouvelle créée administration, dans cette transition, longue transition, oui, vers des politiques de conservation, effectivement.
Avec la peur que le Delta devienne une sorte de Far West du capitalisme, comme on l'a observé un peu partout à cette époque dans l'espace post-soviétique. Donc il faut contrôler le Delta, faire en sorte qu'on n'y fasse pas n'importe quoi. Que deviennent les pêcheurs qui, sous la période communiste, étaient employés par une régie publique? Que deviennent-ils à ce moment-là?
Les pêcheurs se trouvent pris un peu dans une double transition, on va dire, qui peut paraître assez contradictoire. D'un côté, effectivement, la libéralisation économique qu'ils doivent affronter, parce que les pêcheurs étaient des simples employés de la centrale. Ils doivent maintenant, dans le monde capitaliste, devenir des autres entrepreneurs qui ont à supporter tous les coûts de production, les outils de pêche, etc. Et de l'autre côté, il y a aussi l'écologisation qu'on peut appeler du Delta, avec l'introduction des droits de pêche très stricts et l'introduction de toute une série de mesures prohibitives, que ça soit l'interdiction de certains outils de pêche, que ça soit la prohibition de la pêche de certaines espèces comme les esturgeons, très caractéristiques de la région, l'accès qui devient interdit dans certaines zones, etc. Donc, lorsque je faisais ma thèse dans le Delta, bon, ça date un peu, mais les pêcheurs faisaient un peu ironiquement, ils disaient qu'ils sont devenus des braconniers parce que ce n'était pas évident de respecter toutes ces réglementations, à la fois les quotas, à la fois les pratiques. C'était soit très difficile, soit ils refusaient tout simplement parce que certaines de ces mesures, ils les considéraient comme absurdes.
Et vous avez aussi, Véronique...
Dans les premières 10 années.
Ouais, Véronique Amitroff, vous racontez aussi dans vos travaux l'interdiction de la pratique d'incendier les roseaux qui obstruaient les canaux. C'est une pratique que tous les habitants du Détroit faisaient. faisait, enfin avait en tout cas, qui permettait de réguler la prolifération des roseaux et de faciliter la circulation fluviale. Ça doit évoquer des choses à nos élus locaux en France à qui on demande pareil de ne pas entretenir les berges des rivières, par exemple, alors que ça crée des embâcles. Bon, en tout cas, ça fait écho toutes ces mesures administratives un peu absurdes. Est-ce que les pêcheurs et les habitants se sont mobilisés pour essayer de trouver des compromis avec l'UNESCO?
Avec l'UNESCO directement, non, mais avec l'administration de la réserve, oui, bien sûr, parce qu'en fait, on a deux visions de la nature et de la place de l'homme dans ces réserves de la biosphère qui se confrontent. D'un côté, une nature qu'on veut conserver et protéger de la moindre intervention humaine, avec ses zones strictement protégées, etc. Et d'autre côté, une vision du delta comme lieu de vie et de pêche qui est entretenu par les locaux. Effectivement, l'exemple que vous avez donné avec mettre le feu au roseau en hiver pour empêcher le colmatage des lacs, des canaux de pêche, pour entretenir le delta, c'est un très bon exemple de conflit qui a pu avoir entre les populations et l'administration. Puisque ce genre de pratique devient qu'on peut considérer comme traditionnel devient complètement interdite à l'intérieur de la réserve.
Merci beaucoup Véronique Amitreuil, sociologue de l'environnement au CIRAD. J'ajoute que vous expliquez également dans vos travaux que les plus jeunes sont partis, ceux qui étaient dans des familles de pêcheurs, certains sont allés jusqu'en Écosse pour continuer à pêcher. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour parler de ces travaux au CIRAD où vous êtes sociologue de l'environnement. Un petit mot, Sophie Lambroschini, rapidement s'il vous plaît, on arrive à la fin de cette émission, sur les conséquences de la guerre sur l'environnement côté ukrainien. Il y a eu des expériences de réensauvagement qui étaient menées depuis des années par des ONG, notamment néerlandaises, qui ont introduit par exemple sur l'île d'Ermakov une cinquantaine de buffles d'eau et dont cette association ne sait pas comment ils ont réagi au bombardement tout proche. Est-ce qu'on sait d'ores et déjà si les eaux par ailleurs ont été polluées, ce qu'on peut savoir pour sûr aujourd'hui?
Alors, pour la région du Delta, on sait que les pollutions des eaux de la mer Noire, notamment par l'explosion de Kakhovka, mais même d'une manière générale, donc d'explosions de mines, de débris divers et variés, et de pollution aussi causée, par exemple, beaucoup, puisque j'étudie les infrastructures urbaines d'eau, c'est ce qu'on voit arriver, c'est en fait une pollution très souvent par des traitements des eaux insuffisants, par des systèmes très très abîmés, rouillés. Et donc c'est des recherches que j'avais fait pour le projet dans lequel Ivan et moi, je veux dire en un mot, qui s'appelle Lim Spaces, et on avait étudié l'effet de la guerre sur les populations en Ukraine et en Moldavie avec une équipe aussi à Berlin et à Paris. Donc en regardant tout ça, on arrive à faire une mosaïque qui nous permet de voir un petit peu ces effets à la fois écologiques, mais aussi socio-économiques, et donc une image un peu plus complète de ce qui se passe. Mais c'est de la recherche par petits bouts, par petits morceaux de puzzle.
Oui.
Voilà, continue.
Et vous êtes nombreux à guetter d'un côté et de l'autre du Delta, en faisant aussi beaucoup d'aller-retour, toutes les conséquences de cette guerre sur le détroit, du Danube. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été avec nous. Vous avez bien fait de rappeler vos travaux communs, Sophie Lambroschini, avec Ivan Savchuk. Je rappelle juste le titre de votre livre, Ukrainien, aux éditions Atelier Henri Dougier, qui a été réédité en 2022, Sophie Lambroschini. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Presse internationale qui analyse bien sûr les conséquences des frappes américaines sur les sites nucléaires de l'Iran, Catherine.
Trump doit offrir à l'Iran plus que des bombes, de la colère et de l'humiliation, titre The Economist. Le républicain a notamment été élu pour maintenir les États-Unis à l'écart des guerres étrangères. Mais hier, les forces américaines ont rejoint la campagne israélienne contre l'Iran, frappant trois sites nucléaires, à Natanz, Ispahan et surtout le site d'enrichissement d'uranium de Fordo dont je vous parlais dès lundi dernier. C'est là, à 150 km au sud-ouest de Téhéran, que les États-Unis ont largué 12 bombes anti-bunker de près de 14 tonnes, précise le Wall Street Journal. Et le quotidien américain, comme la BBC et The Economist, montre ce matin des images satellites avant, après, pour tenter d'évaluer les dégâts causés sur Fordo. Le système de ventilation et les tunnels d'accès au site d'enrichissement nucléaire semblent avoir été ciblés. Et même si toutes les parties du complexe enfouies à 500 voire 800 mètres sous la montagne n'ont pas été détruites, des vibrations incontrôlées sont un véritable tueur de centrifugeuses, explique dans les colonnes de The Economist un ancien fonctionnaire du ministère américain des Affaires étrangères. Impossible néanmoins d'en évaluer l'ampleur précise, note la BBC.
Et maintenant alors ?
C'est la question qui revient à la une des médias internationaux. Il faut persuader le régime iranien d'abandonner toute velléité d'armes nucléaires, affirme The Economist, et éviter une escalade régionale qui serait désastreuse, notamment pour Israël, mais aussi pour la présidence Trump, confirme le quotidien israélien Haaretz. The Economist craint que ces bombardements américains et israéliens ne fassent que retarder l'avancée du programme nucléaire iranien et qu'en attendant, l'Iran, ses proxys, ses combattants par procuration ou bien des cellules terroristes décident de tuer des soldats et des civils américains, de terroriser les États du Golfe et de fermer le détroit d'Ormuz où transite un cinquième du pétrole mondial, ce qui pourrait faire flamber les prix de l'énergie, préviennent le quotidien israélien Haaretz et le média américain Axios. Inquiétude sur les places boursières en baisse ce matin, montrent le Wall Street Journal et le New York Times. Le Parlement iranien a lui déjà approuvé la fermeture du détroit d'Ormuz, annonce Iran International. Cette décision doit encore être validée par le Conseil suprême de sécurité nationale, précise le quotidien libanais L'Orient le jour, alors que la navigation commerciale à l'échelle mondiale est déjà perturbée en mer Rouge par les rebelles houthis du Yémen, soutenus, je le rappelle, par l'Iran. Donald Trump et ceux qui l'ont poussé à attaquer pensent que les Iraniens ne risqueront pas d'escalade majeure, du moins pas tant que l'Iran sera encerclé par les forces américaines et qu'Israël continuera de dominer son espace aérien, analyse le quotidien Haaretz. Mais attention, si les États-Unis ne saisissent pas l'occasion de renégocier avec l'Iran sur son programme nucléaire, Téhéran pourrait alors redoubler d'efforts pour se doter de la bombe atomique de manière plus ou moins clandestine, souligne The Economist, en sortant par exemple du traité de non-prolifération nucléaire, sans contrôle donc de l'Agence internationale de l'énergie atomique.
Et ce que personne ne sait, c'est si le régime iranien a réussi à stocker de l'uranium enrichi et des composants clés avant les attaques américaines.
Et de hauts responsables aux États-Unis ne savent pas où se trouve le stock iranien d'uranium de qualité quasi militaire. L'Iran aurait déplacé 400 kilos d'uranium enrichi de Fordo ces derniers jours, alerte le New York Times, également repris par le quotidien israélien Haaretz. Le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, a d'ailleurs été interrogé sur ce sujet hier dans l'émission This Week sur ABC News sur ce stock qui a disparu.
We're going to work in the coming weeks to ensure that we do something with that fuel.
Nous allons travailler dans les semaines à venir pour nous assurer du sort de ce combustible. Et c'est l'une des choses dont nous allons discuter avec les Iraniens, a déclaré hier J.D. Vance sur ABC News, le vice-président des États-Unis, très confiant dans l'incapacité actuelle de l'Iran de se doter de l'arme nucléaire grâce aux frappes américaines sur le site de Fordo. Mais le présentateur télé d'ABC News l'interroge ensuite sur la réaction de Dmitri Medvedev. Medvedev, le vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, a évoqué un certain nombre de pays qui sont prêts à fournir à l'Iran leurs propres ogives nucléaires. J.D. Vance s'en étonne. Il dit attendre une réponse officielle de Vladimir Poutine, mais le président des États-Unis pense tout de même que la Russie, la Chine ne veulent pas d'une course à l'arme nucléaire au Moyen-Orient. L'IRNA, l'agence de presse d'État en Iran, montre ce matin le ministre des Affaires étrangères iranien en visite à Moscou. Et l'IRNA salue également le revirement du Pakistan. Islamabad dénonce les bombardements américains sur l'Iran après avoir vanté les mérites de Donald Trump pour le prix Nobel de la paix, ajoute le quotidien pakistanais Dawn et Nikkei Asia. Islamabad avait salué l'excellence diplomatique du président des États-Unis pour avoir aidé à éviter une escalade entre l'Inde et le Pakistan. Revirement donc hier à Karachi, la plus grande ville du Pakistan. Des milliers de personnes ont manifesté contre ces frappes américaines contre l'Iran, en marchant notamment, indique Nikkei Asia, sur des portraits de Donald Trump, mort à l'Amérique, mort à Israël. C'était également le slogan lancé cette fois dans les rues d'Islamabad. L'IRNA s'en félicite, l'agence de presse d'État en Iran, qui montre également des portraits de l'Ayatollah Khamenei brandis par les manifestants au Pakistan.
Et on apprend à l'instant que l'armée israélienne vient de frapper le centre de Téhéran, ainsi que le site nucléaire de Fordo, selon un média iranien. En tout cas, question du soir, il reviendra sur France Culture avec Quentin Lafay et ses invités à 18h20.